Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Maître Élie Corchéa, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Maître Élie Corchéa, on va revivre un peu avec vous, mais aussi jusqu'au 21 octobre prochain, eh bien, le procès en appel de deux personnes qui étaient présentes au moment du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Ces deux personnes sont donc rejugées devant la cour d'assises spéciale qui doit déterminer la responsabilité de chacun dans la préparation des attentats. Et deux ans après leur premier procès, ces deux proches d'Abidi Coulibaly sont rejugés à Paris devant cette cour qui va devoir sous-peser jusqu'au 21 octobre, le degré de responsabilité de chacun dans la préparation des attentats. Alors, ce sont simplement deux accusés qui ont fait appel sur toute la liste de ceux qui étaient en première instance.
Exactement, Pierre. Exactement, il y avait 11 accusés dans le box en première instance, au premier procès en 2020. Sur ces 11, 9 ont été condamnés. Ils ont tous été condamnés, hein. C'est important de le rappeler, pour des motifs divers, des chefs d'accusation divers, associations de malfaiteurs, et pour certains, associations de malfaiteurs terroristes criminels. 9 ont décidé de ne pas faire appel, et les deux principaux accusés, les plus lourdement condamnés, l'un pour complicité d'assassinat à 30 ans de prison, et l'autre pour association de malfaiteurs terroristes criminels à 20 ans de prison, ont décidé de faire appel, et donc ce procès qui a démarré le 12 septembre et qui finira le 21 octobre a justement pour but de rejuger entièrement cette affaire qui concerne, comme vous le savez, les trois attentats, celui de Charlie Hebdo, celui de la Porte de Montrouge et bien évidemment celui d'Hypercacher, pour ces deux principaux accusés qui sont dans le box.
Alors, j'imagine, vous qui êtes l'un des avocats des victimes de l'Hypercacher, ça doit être difficile de recommencer une nouvelle procédure, comme si c'était un peu la première fois.
C'est le même procès et c'est un procès complètement différent. Le même procès parce qu'évidemment ce sont des dizaines de milliers de pages que nous connaissons. Le procès doit être repris par une nouvelle cour d'assises. 5 magistrats professionnels en matière terroriste aux assises en première instance. 7 magistrats différents évidemment avec un nouveau président qui rejuge toute cette affaire. Donc le fond du dossier c'est le même. Je le connais évidemment parfaitement bien et mes confrères et mes consoeurs qui étaient dans le dossier en première instance le connaissent aussi. Mais évidemment, c'est un autre procès puisque quand vous avez 11 accusés dans le box, évidemment, les interrogatoires, les débats tournent autour de 11 personnes qui sont poursuivies pour des faits très différents. Là, c'est vraiment concentré sur deux accusés principalement. Donc effectivement, nous arrivons maintenant dans la dernière ligne droite. Nous allons vivre ces 8 derniers jours la dernière ligne droite de ce procès avec les plaidoiries. On en parlera dans quelques instants, qui ont démarré aujourd'hui et que j'ai inauguré pour les parties civiles. Et puis ensuite, les réquisitions du parquet général. Et puis enfin, le verdict, Pierre, que nous devrions avoir jeudi soir ou vendredi prochain plus tard.
Oui, alors justement, sur les plaidoiries, hier, l'un des accusés, hier soir, s'est lancé dans de très longues explications assez décousues, prouvant, selon lui, son innocence face à une cour qui a eu beaucoup de mal à y trouver une certaine logique. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous, en tant que avocat, vous pouvez attendre de ce nouveau procès?
Vous savez, les zones d'ombre, elles existaient déjà en première instance. Elles existent évidemment aussi en cause d'appel. Il y a eu un changement d'avocat du côté du principal accusé, Ali Riza Polat, qui était l'ami très proche d'Amedi Coulibaly, qui lui a été condamné pour complicité d'assassinat à 30 ans de réclusion. Effectivement, il y a eu un changement d'avocat, mais sur le fond, on a toujours les mêmes dénégations, c'est-à-dire que nous avons quelqu'un qui nous dit qu'il n'était pas du tout au courant de la radicalisation d'Amedi Coulibaly, qu'il n'était pas du tout au courant des projets d'attentat d'Amedi Coulibaly, et qui va évidemment plaider sur cette ligne. Il n'a pas été suivi en première instance, puisque la cour d'assises n'a pas suivi cette position et a décidé de le condamner avec des éléments qui ont été rappelés dans la motivation de la cour, donc à 30 ans de réclusion pour complicité. Évidemment, vous avez raison de le dire, hier il y a eu cette audition qui a été la sienne. nous verrons ce que ça donnera. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai plaidé aujourd'hui donc pour les victimes de l'hypercachère, et notamment Zarvi Siboni et Andréa Chamac, les deux anciennes otages et caissières de l'hypercachère. Mmh. J'ai inauguré ces plaidoiries, et je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai clairement expliqué à la cour d'assises qu'elle ne devait pas, à mon sens et au niveau des parties civiles que je représente, suivre cette stratégie avec des explications qui ne sont pas cohérentes, qui manquent évidemment de réponses précises par rapport à un grand nombre de faits. Je ne peux pas y rentrer ici, nous n'aurions pas le temps, mais je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments à charge très importants dans le cadre de ce dossier contre cet accusé, mais aussi contre l'autre. Mais cet accusé qui est celui sur lequel pèse effectivement le chef d'inculpation plus important, complicité d'assassinat, effectivement, j'ai repris un certain nombre de faits objectifs qui sont dans le dossier et qui démontrent que jusque dans les derniers jours, les dernières heures qui ont précédé les attentats, qui a été synchronisé, comme vous le savez, entre Amédi Coulibaly pour l'attentat à la porte de Montrouge et l'hypercachère, et les frères Kouachi qui ont commis l'attentat de Charlie Hebdo le 7. Ils ont synchronisé ces attentats ensemble. Eh bien, Amédi Coulibaly était en contact avec Ali Rizapolat jusque dans les dernières heures. Et il y a un certain nombre d'éléments que nous avons détaillés depuis ces dernières semaines qui sont importants et qui pourraient démontrer effectivement la culpabilité de cet accusé si la cour d'assises, évidemment, le décide, comme en première instance la première cour d'assises spécialement composée l'avait décidé. C'est un enjeu essentiel effectivement de ce procès, et il y a effectivement deux thèses complètement différentes avec le parquet général, les avocates générales, les deux avocates générales qui porteront l'accusation au nom de la société, qui porteront l'accusation du parquet la semaine prochaine, et qui elles demanderont la peine en cause d'appel. Comme vous le savez, on rejuge toute l'affaire, donc on peut demander moins, on peut demander une confirmation, on peut demander plus, mais tout est remis sur la table lors du procès en appel. Peut-être un petit point, Pierre, oui. Si je peux me permettre, en tout cas par rapport à la plaidoirie que j'ai développée ce matin. J'ai dit quelque chose qui, je pense, pourra toucher celles et ceux qui nous écoutent. J'ai d'abord expliqué que nous avons compris à partir de 2015, puisque vous savez qu'en ce moment a lieu à la fois le procès en appel des hypercachères, mais aussi le procès des attentats de Nice, et en même temps nous avons le procès des attentats du 13 novembre. Et j'ai expliqué en paraphrasant George Orwell et une célèbre phrase de George Orwell dans son livre « La ferme des animaux ». Vous vous rappelez qu'Orwell nous dit dans son livre « Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres ». Et j'ai paraphrasé cette phrase en expliquant notamment que si depuis 2015, et encore plus depuis novembre 2015, tous les Français sont égaux face au risque terroriste, il n'y a plus de personnalité ciblée particulièrement, on l'a vécu avec le Stade de France ou les tueries dans les rues et les cafés du 11e arrondissement, en revanche, les Français de confession juive restent plus égaux que les autres par rapport à la menace islamiste, parce qu'on l'a bien vu en 2012, avec l'an zéro du terrorisme islamiste qui avait tué à l'école aux Aratora, on l'a vu encore en 2015, lorsque cette troisième tuerie, ce troisième attentat est commis dans l'hypercachère. Là encore, on voit bien que les Juifs restent une cible privilégiée des terroristes islamistes. Et c'est cet antisémitisme que j'ai voulu développer, expliquer, dont j'ai expliqué aussi le continuum sur plusieurs années jusqu'à ces attentats de l'hypercachère, de Charlie Hebdo et de la Porte de Montrouge, que j'ai développé ce matin devant la cour d'assises pour essayer de remonter le fil de cette haine antisémite qui malheureusement a tué en France dans l'hypercachère, et ça faisait partie de ce que j'ai expliqué ce matin.
Maître Élie Corchia, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom, vous qui êtes l'avocat, l'un des avocats des victimes de l'hypercachère. Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.